Louange et remerciements au Seigneur, cela me surprend maintenant. Je pensais que la chorale allait encore chanter et je viens d'entendre qu'ils ont déjà chanté. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Nous avons pu expérimenter réellement Dieu dans ces jours-ci. Ce furent des moments, voire des minutes de communion et de contact direct avec Dieu. C'était précieux. C'était céleste. C'était glorieux. Et cela va encore s'améliorer. Aussi l'amour que nous portons les uns aux autres deviendra lui aussi encore plus profond, plus intime. Tout ce qui est épineux, mordant, acide et sera encore ôté de nous. Que nous soyons une belle pâte agréable d'honnêteté et de vérité. Celui qui se réunit avec nous se sentira bien en notre présence parce que nous étions et sommes toujours en présence de Dieu. Frère Branham a dit un jour, il y a des gens avec qui on aime être et d'autres avec qui on n'aime pas être. Mais lorsque nous rencontrons des personnes qui sont elles-mêmes reliées à Dieu, oh, c'est alors la béatitude, la gloire, pas de malentendu, pas de rancune, simplement la joie et l'allégresse dans le Seigneur. Et cela doit se manifester de plus en plus par la grâce. Et cela se manifeste parmi tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Je voudrais déjà profiter de l'occasion pour vous remercier tous du fond du cœur de n'avoir pas ménagé vos efforts pour être réunis avec nous devant la face de Dieu en ces jours. Cette fois-ci, nous n'avons pas non plus entendu de réclamations. Tous étaient satisfaits qu'ils aient passé la nuit dans la cave ou au deuxième étage, qu'ils soient seuls 2, 3, 10, 20. Tous étaient satisfaits et contents. Et même les enfants se sont tous très bien comportés. La situation ne cesse donc de s'améliorer. Que le Seigneur soit loué et remercié. Nous avons vraiment apprécié ces journées. Je les ai appréciées. Hier après-midi, c'était pour moi personnellement le point culminant. Je vous le dis, le contact direct avec Dieu, c'était si précieux, si doux, si réconfortant, si bénéfique. Et partout où l'Esprit de Dieu agit, il y a une atmosphère céleste. Là où des esprits sont actifs, tout se mélange. Les malentendus, les soupçons, alors tout est comme envoûté, excusez ce mot. Mais là où l'Esprit de Dieu est, à l'œuvre, oh, c'est magnifique. Chacun est dans son cœur avec des dispositions et des sentiments justes. Et même si l'un d'eux disait quelque chose de maladroit, l'autre le comprendrait habilement, de la bonne manière, parce qu'il est bien disposé dans son cœur et ne se laisse pas voler et priver de son lien avec Dieu. Malgré certains problèmes, nous ne les nions pas du tout, mais nous pouvons, malgré toutes les faiblesses et les infirmités humaines, nous déclarer bienheureux comme étant ceux que Dieu a bénis et à qui il a fait grâce, comme étant ceux avec qui il a parlé face à face. Le Seigneur dit dans Matthieu 13, verset 17, « Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré ardemment voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Combien de grands hommes de Dieu, combien de chers frères et sœurs ont vécu avant notre époque et n'ont pas entendu ni vu les choses que Dieu avait prévues pour la fin du temps de la grâce. Aujourd'hui, nous vivons, c'est notre jour que Dieu a préparé et fait pour nous. Le jour le plus glorieux de tous. Frère Branham m'a dit un jour, si Dieu m'avait demandé, quand voudrais-tu vivre, quand voudrais-tu me servir, et s'il avait étalé devant lui tout le plan pour tout ce temps, pour tout le temps, il aurait dit, Seigneur, j'aurais voulu vivre maintenant et te servir maintenant, juste dans ce temps, en ce moment. Bien-aimés, les voies de Dieu sont simplement magnifiques et merveilleuses. Tout simplement magnifiques et merveilleuses. Et Dieu nous accordera la grâce d'éliminer les dernières malentendus, les derniers malentendus et ambiguïtés, et d'être intimement, profondément unis dans l'amour divin et d'accepter chacun tel qu'il est. Tel qu'il est. Dans le verset suivant, que frère Pézal n'a pas lu, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 16, « C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Que Dieu nous accorde à tous, nous qui avons des défauts, des faiblesses et des infirmités, que le Seigneur fidèle, qui s'est révélé en homme parfait, nous accorde à tous la grâce de voir Christ en chacun, de savoir malgré tous nos défauts, malgré toutes nos faiblesses et malgré toutes nos infirmités, que nous avons été rachetés dans un but élevé et glorieux pour passer l'éternité avec Dieu et ensemble. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'ai été fortifié et je suis convaincu que Dieu ramènera encore plus d'un frère et d'une sœur, les arrachera et leur donnera la clarté, que nous ne réussirons pas en nous opposant les uns aux autres, mais en nous soutenant les uns les autres et en travaillant ensemble. Ce n'est qu'ensemble que nous y parviendrons. Et nous devrions nous soutenir mutuellement, nous aider les uns les autres, nous tendre la main, nous servir les uns les autres, et cela dans l'amour. Nous rencontrerons le Seigneur très prochainement, et nous voulons faire cela avec joie, vraiment insouciant, sans être chargés, même si bien des choses terrestres nous pèsent encore, que rien de spirituel ne nous pèse, mais que nous soyons intérieurement détendus et préparés, que nous puissions dire avec conviction et du fond du cœur, et cela sous l'action de l'Esprit. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais tout près du retour du Seigneur, cela devra l'être, car il est écrit dans Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et que celui qui l'entend dise « Viens ». Ainsi, l'Esprit sera uni à l'Épouse dans le Seigneur qui nous a aimés en nous faisant sortir, en qui nous suivent, en qui nous croyons et que nous suivons. Cet après-midi, nous ne le ferons que très brièvement, mais ce sera plus profond, plus intime et chaleureux que jamais auparavant. Lorsque nous prenons le souper, nous pensons à notre Seigneur et à chaque frère et chaque sœur. Nous pensons les uns aux autres. Nous nous remercions les uns les autres parce que le Seigneur nous a fait à tous grâce. Savez-vous qui reçoit la grâce? Ce sont les criminels. Les criminels sont acquittés, sont graciés, reçoivent la grâce. Les gens qui se sont rendus coupables, qui ont été frappés par le tribunal, condamnés et mis en prison, sont soudainement graciés, acquittés, reçoivent grâce. Nous étions tous de telles personnes aux yeux de Dieu. En effet, nous ne sommes pas aussi aimables que nous le pensons tous. Aux yeux de Dieu, nous avons tous manqué, échoué. Mais le Seigneur est venu, a ouvert les portes de la prison et a dit que ceux qui étaient liés devaient être libérés. Et nous sommes devenus libres par grâce, par grâce. Un cantique dit « Libre, 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 son sang efface mes fautes. Libre, libre, je goûte à la grâce divine. Libre, 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 bientôt je verrai sa face. Libre, libre, libre. » Je me fierai toujours à sa grâce. Alléluia. Nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes. Nous avons déjà souvent été confus en nous-mêmes. Jusqu'à présent, je n'ai pas été confus par un seul, tout au plus par moi-même. Mais personne n'a jamais été confus par le Seigneur. Personne ne sera confus qui s'attend au Seigneur. Maintenant, je voudrais, mon cœur est plein, vos cœurs le sont aussi, mais le temps est court. Et c'est pourquoi nous voulons encore lire quelques passages bibliques et ensuite célébrer le souper du Seigneur. Dans Colossiens, au premier chapitre, nous lisons au verset 14, Colossiens 1, verset 14. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon des péchés. » Ensuite du verset 19, « Car le dessein de Dieu était de faire habiter en lui toute la plénitude. » Au verset 20, « Et de réconcilier par lui toutes choses avec lui, après avoir fait la paix par son sang versé sur la croix, de réconcilier par lui aussi bien les choses qui sont sur la terre que celles qui sont dans les cieux. Par son sang versé sur la croix, il a fait la paix. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a dit dans Matthieu 5, verset 9, « Bénis ceux qui font la paix. » Et je crois qu'un homme qui est en paix avec Dieu portera la paix, l'aura avec lui et la répandra partout où il ira et se tiendra. Celui qui a trouvé le repos en Dieu restera, demeurera dans ce repos divin et Dieu sera avec lui et le bénira. Dans l'épître aux Hébreux au chapitre 13, on peut lire à partir du verset 10. Hébreux 13 au verset 10. Hébreux 13, verset 10, « Nous possédons un autel de sacrifice dont ceux qui sont chargés de la tente n'ont pas le droit de manger. » Verset 11, « Car des animaux dont le sang est introduit dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour l'expiation du péché, les corps sont brûlés hors du camp. » Verset 12, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert en dehors de la porte de la ville. Verset 13, sortons donc vers lui à l'extérieur du camp et portons son l'opprobre. Verset 14, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15, ainsi donc par lui, nous offrirons toujours à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom, ou louons son nom, ou confessons son nom, selon les traductions. Puisse Dieu nous aider à comprendre cela. Jésus n'appartenait à aucun groupe. Il était le rejeté, le réprouvé, hors de la porte de la ville, hors de tout camp. Il a souffert. Il est monté au lieu du crâne. Et là, il a payé le prix. Sortons avec lui de tout camp religieux et portons son opprobre. Si nous souffrons avec lui, nous aurons aussi part à la gloire avec lui. Romains 8, verset 17. Un jour, nous échangerons la croix contre la couronne et nous serons avec le Seigneur pour toujours, éternellement. Déjà, Moïse considérait l'opprobre de Christ comme une plus grande richesse que tous les trésors d'Égypte. Hébreux 11, 29. Tout ce qui est temporel est éphémère, seul ce qui est éternel durera. Notre Dieu nous a élevés hors de la temporalité. Il nous a donné la vie éternelle par grâce et nous pouvons dire avec Paul, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 1. Les croyants, c'est bien connu, ne meurent pas. Ils ne font que changer de domicile, comme disent les Suisses. Ils déménagent. Oui, nous ne faisons que passer du temps à l'éternité. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité, la clarté et la réalité divine. Alléluia. Ô gloire à notre Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce dont le cœur de l'homme n'a pas eu pensée, c'est ce que n'a pas eu d'idée, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et pourquoi l'aimons-nous? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et parce qu'il a mis son amour dans nos cœurs, personne ne peut venir à lui à moins d'être attiré. Personne ne peut l'aimer à moins d'avoir été aimé par lui. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Oui, nous sommes les préférés de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous lisons encore un peu, car la parole de Dieu est si précieuse. Philippiens, chapitre 2, verset 1. Or, s'il y a une réprimande prononcée en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a une profonde compassion et une grande miséricorde, verset 2, rendez ma joie parfaite en ce que vous êtes unis dans l'esprit, partageant le même amour et tendant d'un commun accord vers le même but. Verset 3, ne faisant rien par dogmatisme ou par vaine ambition, mais estimant avec humilité que l'autre est supérieur à soi-même. N'est-ce pas là une parole merveilleuse? D'un même esprit. Oui, de quel esprit? Au verset 5, que cette disposition d'esprit habite en vous tous comme elle a existé en Jésus-Christ. C'est ce que dit le verset 5. Donc, ne pas être d'accord avec frère Franck, avec frère tel ou tel, mais être totalement accordé avec Jésus-Christ. Et il est la parole. La parole était au commencement et la parole est à la fin. Et si nous sommes en accord avec lui, nous sommes aussi en accord les uns avec les autres. Nous avons alors la même parole, le même esprit, le même amour, tout concorde. Et soudain, une atmosphère divine, céleste, glorieuse, se crée dans nos cœurs et aussi entre nous. Et c'est alors que la douceur de Dieu se manifeste, la miséricorde du cœur, la compassion intime, profonde, et ainsi rendre la joie parfaite, comme on a lu dans Philippiens 2, par le fait que nous sommes animés d'un seul esprit, à savoir que nous portons les sentiments de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, le Rédempteur, a versé son sang Et comme nous l'avons si bien entendu de la bouche de Frère Branham, la vie est dans le sang. Il a versé son sang divin et la vie est dans son sang. Lévitique 17, 11, sa vie divine a été libérée et est revenue sur tous ceux qui ont été rachetés par son sang. Alléluia! Gloire à Dieu! Et alors nous ne sommes plus ceci ou cela. Alors nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de Dieu. Et comme nous l'avons entendu, parce que Christ est mort pour nous, nous pouvons vivre pour lui. Dans Romains 14, verset 8, Paul exprime à peu près la même pensée. Romains 14, verset 8. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. C'est pourquoi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons en propre au Seigneur. C'est une chose tout à fait merveilleuse. Les gens ont-ils pu constater que nous vivions avec le Seigneur? Les gens ont-ils pu le constater ou ont-ils seulement entendu que nous parlions de lui? Nous avons eu de nombreuses conversations avec beaucoup de gens. Nous leur avons fait entendre de nombreuses paroles. Ont-ils pu entendre dans leur cœur que l'amour et la miséricorde de Dieu sont liés aux paroles que nous prononçons et qu'elles ont été transmises de cœur à cœur? Ont-ils pu constater ça dans leur cœur quand on leur parlait? Nous l'avons en effet entendu. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Il n'est pas dit, si nous parlons pour le Seigneur. Non. Non, il s'agit ici d'une vie pour le Seigneur. Notre vie doit le manifester. Si le Seigneur veut sauver un pécheur aujourd'hui, comment le fait-il? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il lui parle? As-tu déjà vu le Seigneur ainsi et ainsi? Il se sert, non, il te sert de tes pieds pour marcher, de ta bouche pour parler, de tes mains pour bénir. Nous sommes le corps du Seigneur, des membres qu'il a réunis et qu'il veut bénir, utiliser et employer. C'est pourquoi notre Seigneur parle et dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé était en lui et avec lui. Jésus a dit dans Jean 14, les paroles, au verset 10, les paroles que je vous adresse, je ne les prononce pas de moi-même. Non, le Père qui est continuellement en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Alléluia! Le Seigneur, notre Rédempteur, le mien et le tien, qui a fait sa demeure en nous par la foi, parle, agit, sauve, guérit, bénit par les membres de son corps, car c'est à cela que nous sommes entrés à sa suite. C'est à cela que nous sommes venus pour le suivre. C'est à cela qu'il nous a destinés. Je vous avais en effet promis à voix haute ou à voix basse de ne plus prêcher, car le temps est si court. Mais les paroles de Dieu sont plus précieuses et nous oublions le temps. Permettez-moi néanmoins de lire les deux passages, 1 Corinthiens 10 et 1 Corinthiens 11. De 1 Corinthiens 10, je lis du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Verset 17, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous sommes un seul corps, car nous nous partageons tous un seul pain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas par critique et encore moins par orgueil, juste une triste constatation. Une sœur m'a téléphoné hier d'une grande ville allemande. Elle était toute bouleversée et m'a dit, frère Franck, j'ai lu les prédications de frère Branham depuis un certain temps, mais je continue à aller ici et là et imagine ce qui s'est passé hier ici dans la grande assemblée pentecôtiste. Là, ils ont célébré le souper à la manière catholique avec l'hostie ronde. Et on ne l'a même pas prise. On l'a seulement trempée dans le vin, puis on a pris l'hostie seule. Oh, cela déchire le cœur et tout ce qui est en nous. Des gens. Et si je ne savais pas cela, que justement l'homme qui est le principal responsable d'avoir lancé cette église, un homme que j'ai traduit de l'anglais à l'allemand dans une grande ville allemande, un homme qui connaissait frère Branham, un homme, et quand on entend toutes ces choses, oh, comme la parole révélée de Dieu nous devient alors précieuse, que nous avons été ramenés à la parole du Seigneur. Et vous verrez tous ceux qui, en ces derniers jours, n'ont pas écouté le vrai prophète de Dieu, devront écouter le faux prophète. Et parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, Dieu leur envoie des puissances d'égarement. Mais pour moi, qui ne suis pas un novice, un nouveau dans le royaume de Dieu, c'est particulièrement douloureux d'apprendre cela et de la part de frères avec lesquels j'ai mangé et bu et avec lesquels j'ai travaillé dans les années précédentes. Mais la tendance de l'époque est de suivre le courant, de prendre le chemin de la moindre résistance. Tout se mélange avec Babel et recule et va en arrière. Et les saintes écritures disent que tous sont devenus ivres du vin de leur prostitution. Il n'y a que deux sources. L'une est la source divine originale. Et déjà le prophète Ésaïe a prophétisé, la parole du Seigneur sortira de Jérusalem et l'instruction de la montagne de Sion. C'est de là que vient la vraie parole prophétique et apostolique. Et La deuxième source satanique est à Rome, au Vatican. Et tous ceux qui en boivent, ils deviennent spirituellement ivres et perdent leur orientation. Prenez la chose au sérieux. Il n'y a pas de voie intermédiaire. La décision doit être prise devant Dieu. Certes, tout est emporté autour des différentes appellations du charismatique et de tout ce qui est de ce genre. Ah, c'est tellement attrayant que cela inclut tout le monde. Ils peuvent tous rester ce qu'ils sont et croire ce qu'ils veulent et participer quand même et en prendre part. Croyez-moi aujourd'hui, Dieu veut maintenant un peuple qui soit mis à part, séparé, appelé à sortir et sanctifié de part en part, entièrement dans la vérité. Vous, mon peuple, séparez-vous et ne touchez à rien d'impur. Alors vous serez mes fils et mes filles et je serai votre Dieu. Pas avant. Pas avant. C'est la condition. Je vous ai encore promis que je ne prêcherai pas. Mais maintenant, nous lisons une parole glorieuse. Oh, aussi sérieuse que soient toutes ces choses, nous constatons néanmoins qu'une profonde reconnaissance s'élève dans notre cœur vers Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des idiots. Aujourd'hui, on nous regarde de haut. Un jour, d'autres seront les insensés et nous les regarderons de haut, car nous serons déjà dans la gloire. Lisons quelques versets de 1 Corinthiens, chapitre 11, en commençant par le verset 23. Faites ceci en mémoire de moi. De même, le verset 25, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Verset 27, « Celui donc qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne, péchera contre le corps et le sang du Seigneur. » Verset 28, « Que chacun donc s'éprouve lui-même et ensuite seulement mange du pain et boit de la coupe. » Verset 29, « Car celui qui mange et boit s'attire une condamnation par le fait de manger et de boire s'il ne distingue pas le corps du Seigneur. » Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, qu'il me soit permis de citer ici Frère Branham. Il a dit que Dieu voit le corps. Il voit l'Église complètement purifiée et sanctifiée à travers Golgotha, sans défaut, sans aucune réclamation, sans aucun reproche, irréprochable. Ayons ce discernement, ayons cette distinction. que nous ne nous connaissions plus les uns les autres selon la chair et que nous ne nous laissions pas entraver et déranger spirituellement, mais que nous discernions le corps du Seigneur et que nous disions « Mon frère, ma sœur, fais aussi partie du corps du Seigneur. » Eux et elle et lui ont leurs difficultés. Moi, j'ai aussi les miennes. Et Dieu nous a et nous aidera tous ensemble. Il nous portera jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue et que nous apparaissions accomplis en sa présence. Encore une parole en ce qui concerne le lavage des pieds, car il pourrait être nouveau, voire étranger pour certains. Notre Seigneur a donné le commandement et nous lisons sa parole, puis nous demandons à tous de la mettre en pratique. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, nous lisons le verset 5. Après cela, il versa de l'eau, donc Jean 13, verset 5, dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le tablier de lin qu'il avait noué autour de lui. Verset 6, c'est ainsi qu'il arriva chez Simon-Pierre. Celui-ci lui dit, « Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Verset 7, Jésus lui répondit en disant, « Ce que je fais, là, tu ne le comprends pas encore maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Verset 8, Pierre lui répondit, « Maintenant et jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Verset 9, Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Verset 10, Jésus lui répondit, « Celui qui est baigné n'a pas besoin qu'on lui lave autre chose que les pieds, mais il est pur de tout son corps et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Verset 11, « Car il connaissait bien celui qui le trahissait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Verset 12, « Après leur avoir lavé les pieds, remis ses vêtements de dessus et repris sa place à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Verset 13, vous vous adressez à moi en disant « Maître et Seigneur » et vous avez raison de m'appeler ainsi car je le suis. Vraiment. Verset 14, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous êtes obligé de vous laver les pieds les uns aux autres. » Amen. Ce ne sont pas mes paroles. Je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir pu, du vivant de frère Branham, assister et célébrer avec lui le souper et le lavage des pieds dans la chapelle à Jeffersonville, Indiana. J'apprécie comme un grand privilège le fait que Dieu m'ait accordé par grâce le plus petit et le plus indigne de tous. J'aime cet homme de Dieu qui est devenu pour moi une si grande bénédiction. Un jour, nous serons ensemble pour toujours là-bas, dans la gloire. Comme nous pouvons être reconnaissants pour tout cela. Mais je dois quand même vous lire le verset suivant, si ce n'est même les deux versets suivants, verset 15. Car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Verset 17, si vous savez cela, béni êtes-vous si vous le mettez en pratique. Maintenant, nous le savons et si nous agissons en conséquence, nous sommes bénis. Bienheureux, n'est-ce pas glorieux? Quelqu'un peut peut-être penser humainement, oui, et dire, oui, en quoi consiste le lavage des pieds? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tu peux aussi penser, qu'est-ce que c'est que le baptême peut avoir en soi? C'est la même eau en baptisant les gens ou en leur lavant les pieds. Arrêtons toutes nos pensées humaines. Notre Seigneur parle et il dit, ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas. Vous le saurez dans la suite. Oh, son amour divin, son humiliation, lui, le Seigneur et le Maître, ôte son surplis, se noue le pagne, verse de l'eau dans la cuvette, lave les pieds de ses disciples. Oh, comme ils ont dû se sentir comme de la poussière devant leur Seigneur et Maître. Pierre aurait-il souhaité laver lui-même les pieds du Seigneur, n'est-ce pas? Et quand il a compris de quoi il s'agissait, il a dit, Seigneur, alors pas seulement les pieds, mais aussi la tête et les mains. Bien-aimés, nous ne voulons pas laver la tête, mais les pieds. Mais que cela soit fait dans cet amour divin et profond, intime. Pas seulement comme une question de forme, mais que cela se fasse avec intimité, les uns envers les autres et envers notre Seigneur. De même que nous prenons le souper, que nous commémorons la mort du Seigneur et que nous l'annonçons, nous nous lavons ensuite, après le souper, les pieds les uns aux autres. Et nous savons, il nous a rachetés, nous lui appartenons, nous sommes sa propriété et nous faisons tout cela dans l'amour divin. Et il nous bénit pendant que nous le faisons. Veillons particulièrement lors du lavage des pieds à ce que personne ne soit négligé. Et je vous en prie que personne n'évite quelqu'un d'autre. Ne faites pas cela. L'heure de vérité est arrivée. Que l'amour divin, l'amour qui réconcilie et qui pardonne, remplisse nos cœurs à tous jusqu'au plus profond de nous-mêmes, afin que nous puissions nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Loué soit son saint nom, loué et exalté soit son saint nom. Amen. Nous inclinons nos têtes et restons en prière devant le Seigneur. Tout à coup, je dois dire à ceux qui n'ont pas encore trouvé le repos complet dans leur cœur, de réfléchir à la question de savoir s'il n'y a pas une malédiction, un envoûtement, un droit de Satan par la sorcellerie, par la divination, la magie, quoi que ce soit qui se soit fait dans le domaine, que ce soit avec vous ou que vous en, ou que vous en soyez responsable, laissez-moi vous le dire. Aucune malédiction, aucune magie, aucun sortilège, aucune sorcellerie de Satan ne peut s'attacher aux rachetés et aux prédestinés de Dieu. Si vous n'avez pas assez, si vous n'avez pas été assez fort, si vous n'avez pas été assez fort dans la foi et que vous êtes encore dans la lutte intérieure, nous voulons vous aider et vous soutenir par nos prières. Et je demande maintenant instamment que toutes les têtes soient inclinées et tous les yeux fermés. Que tous ceux qui sont encore en lutte intérieure lèvent rapidement la main. Merci, 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 merci. Soudain, tout à coup, cela m'a été inspiré par l'Esprit, que je dois le dire, et je vous le dis, Dieu est lui-même présent pour écraser le diable sous nos pieds et pour permettre à chacun de sortir délivré, de même que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a écrasé la tête du serpent, a affronté l'enfer tout entier et a vaincu le diable et tous les démons. De même, la victoire divine se manifeste aujourd'hui dans votre vie à tous, dans votre âme, dans votre esprit et dans votre corps. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est accompli. C'est fait. Vous êtes libre. Alléluia. Dites-le maintenant de votre propre bouche. De votre propre bouche. Je suis libre, délivré. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur au Seigneur, notre Dieu. Croyez-le, il l'a fait. Examinons-nous maintenant devant la face de Dieu. Présentons tout au Seigneur avant de prendre le pain, puis la coupe. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse aujourd'hui d'une manière particulière, que chacun de nous, prie en ce temps, que chacun, que chaque cœur soit touché par l'amour de Dieu manifesté à Golgotha. Je vois que même les plus jeunes ont levé les mains pour servir le Seigneur et lui consacrer leur vie. Puisse Dieu agir si puissamment par son esprit que de l'arrière-grand-père à l'arrière-petit-fils, tous ceux qui sont assis sous l'écoute de la parole de Dieu soient saisis. Car c'est ainsi que la présence de Dieu vient au milieu de nous. Quand chacun présent ici est saisi par l'Esprit de Dieu, là où se trouve la parole, l'Esprit descend également pour être efficace à nous tous, conformément à la parole. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Louange à Dieu. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ces précieuses bénédictions. Nous te remercions pour ta parole. Nous sommes transportés au Seigneur fidèle au jour où tu as quitté les tiens, comme tu as pris le pain, comme tu l'as rompu, comme tu en avait rendu grâce. L'apôtre Paul l'a également reçu du Seigneur. Seigneur, nous en faisons partie. Nous sommes ton peuple. Et en ces jours, nous n'avons pas pu choisir l'époque dans laquelle nous vivons. Tu nous as placés en ces jours, mais tu nous as donné ta parole pour que nous la prenions en compte, nous la recevions dans notre cœur, que nous y croyons, que nous la mettions en pratique au Seigneur. C'est ainsi que nous l'avons lu. C'est ainsi qu'il est écrit, ô Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour ta sainte et précieuse parole. Nous sommes reconnaissants pour ton corps que tu as fait immoler pour nous. Nous sommes reconnaissants pour ce pain que nous avons devant nous, de ton corps qui a été frappé et cloué à la croix, de ton corps qui a été frappé et cloué à la croix. Seigneur, nous te prions de bénir ce pain. Alors que nous le tenons ici, nous te demandons ta bénédiction et nous bénissons ce pain au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tous ceux qui participent soient bénis au nom du Seigneur. Alléluia! Oh Dieu, tu es présent! Tu es proche de nous. C'est pourquoi nous te louons, car nous savons que tu nous as rachetés. Tu nous as donné ce commandement pour que nous le gardions jusqu'à ton retour. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas encore revenu, mais tu apparaîtras bientôt. Et tu prendras les tiens auprès de toi dans la gloire. Mais nous nous souvenons aujourd'hui, en ce jour, de ta mort sur la croix, de ta résurrection et du fait que tu es monté dans la gloire et que tu reviendras, Seigneur. Adoration à ton nom. Amen.